prioritaire,
Europe 1,
c'est de continuer le travail,
14 novembre 2010,
de désendettement,
Laurence Parisot,
et de réduction des déficits publics. C'est absolument fondamental. Et si nous aggravons nos déficits et notre dette, si nous ne sommes pas capables de freiner ce cheval qui est emballé, les questions sociales seront encore plus dramatiques.
Alors venons-en à ce manifeste d'économistes atterrés, je rappelle le titre, et c'est en 10 points, vous avez découpé ça en 10 points, de fausses évidences avec une conclusion. Alors chacune des fausses évidences est suivie de propositions, de mesures, c'est plus que des propositions, c'est des mesures que vous suggérez. Bon, on va commencer par le premier point, c'est les marchés financiers, puisque c'est ça dont il s'agit depuis si longtemps, qui domine cette vision économique et politique de notre monde depuis plus d'un quart de siècle. La question, c'est les marchés financiers sont efficients. On comprend, puisque vous avez stipulé fausse évidence auparavant, que la réponse est non.
C'est une évidence centrale et c'est pour ça qu'elle commence le manifeste, parce que toute la construction du capitalisme financiarisé et néolibéral est justement liée à cette idée, à l'idée d'efficience des marchés financiers. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'on croit que la concurrence financière est bénéfique à la société. Et donc, il faut mettre de plus en plus de concurrence financière, non seulement dans les actions, obligations et titres financiers, mais aussi dans les devises, dans les matières premières, etc. Et donc, on a assisté, comme vous le notez, depuis 30 ans, pour tous les pays de la planète, quelle que soit la couleur des gouvernements, on a assisté à un mouvement général de financiarisation. On a fait en sorte que les mécanismes de libre concurrence financière soient devenus de plus en plus prégnantes. Et on peut dire qu'on est arrivé à une situation où il existe une forme de marché financier mondialisé. Et la mondialisation est là certainement la plus forte, une marché financier mondialisé. Et derrière cette construction, il y a une idée, c'est que bon pour la société, que c'était parce qu'on a toujours cette idée que la concurrence est une chose bonne, parce que...
Ça profite aux consommateurs.
Voilà,
ça...
la concurrence profite aux consommateurs, elle permet de produire des produits de bonne qualité à des prix bas. Mais là, ce qu'on dit, c'est que ce n'est pas vrai de la concurrence financière, que la transposition du modèle concurrentiel des produits élémentaires la finance est une fausseté, erreur. Elle paraît naturelle, mais elle est entièrement fausse. Et donc, on explique un peu les raisons pour laquelle qu'elle sait. La première et la plus centrale, c'est le fait que le caractère régulateur de la concurrence vient du fait qu'elle crée des forces constantes qui empêchent les prix d'exploser. Au fond, c'est ça qui fait que la concurrence est intéressante. Si jamais les prix d'une table viennent trop haut, alors on produit d'autres tables. Les gens n'achètent plus de tables, mais achètent d'autres produits substituables. Et donc, le prix de la table ne va pas augmenter à l'infini. Et ce qu'on montre en finance, c'est que ce n'est pas du tout comme ça. Ce qu'on a connu d'ailleurs dans toutes les bulles immobilières, la bulle Internet, c'est que quand le produit des titres augmente, la demande ne baisse pas. La demande de produits dont le prix augmente, augmente aussi. Ce qui fait que ça entraîne à nouveau une augmentation du prix, une augmentation de la demande, ce qu'on appelle les bulles spéculatives. Pourquoi ? Parce que quand les titres augmentent, l'individu qui les possède gagne de l'argent. Quand l'immobilier a augmenté, le propriétaire gagnait de l'argent en termes de plus-value et donc ça attirait des gens de l'extérieur. Donc quand le prix d'un titre augmente, loin de baisser la demande comme c'est normal sur les marchés de biens ordinaires, ça a tendance à l'augmenter. Donc le point important et la première fausse évidence, c'est ça. C'est que le mécanisme concurrentiel sur les marchés financiers ne marche pas de la même manière que sur les biens ordinaires. Et donc que laisser la régulation à ce type de structure au niveau mondial, c'est courir à la catastrophe. On l'a vu jusqu'à maintenant, on le reverra par la suite. Laisser les devises être gérées par des mécanismes de marché, c'est absurde. Laisser la dette publique être gérée par des marchés, c'est absurde, etc. Et c'est l'idée de base, parce que le G20 continue quand même à être dans cette idée-là. Elle veut réguler la finance, mais elle conserve l'idée que le principe de base, c'est la concurrence financière.
Mais ça, on le savait déjà, ça, non ?
Non,
on savait déjà ce que donne la finance lâchée en liberté, comme ça. On sait dans l'histoire.
Alors, on l'a oublié, si vous voulez.
Là aussi, c'est le poisson rouge qui de retour.
Absolument, oui, parce qu'on est des économistes. Donc, on peut dire qu'à l'intérieur de l'économie, l'idée d'efficience, l'idée que la concurrence est bonne en finance était vraiment très forte. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que les dirigeants n'ont pas cru à la possibilité d'une crise systémique. Ils ont dit, mais puisqu'on a de la concurrence partout, on a des marchés financiers partout, les actifs financiers, les crédits sont titrisés. Comment voulez-vous que dans ces conditions, on ait de l'instabilité ? Et donc, le réveil a été un peu brutal.
Oui, parce que nos dirigeants, par exemple en Europe, se sont vraiment réveillés ?
Pas encore. Pas encore, parce qu'il y a...